Chapitre 1. Le riche parfum des roses emplissait l'atelier. Le souffle d'une brise d'été légère apportait du jardin, par la porte ouverte, tour à tour la senteur lourde des lilas, l'odeur plus délicate des aubépines en fleurs. Allongé sur les coussins de cuir perçant du sofa, Lord Henry Wotton, tout en fumant, selon son habitude, d'innombrables cigarettes, pouvait apercevoir la floraison dorée d'un cities dont les rameaux tremblants semblaient à peine assez robustes pour soutenir le poids de leur étincelante beauté. De temps en temps, glissant sur les rideaux de tussor des vastes baies de la fenêtre, les ombres fantastiques d'oiseaux en vol produisaient une sorte d'effet japonais, fugitif, et Lord Henry pouvait songer à ces peintres de Tokyo, aux visages de jade pâle, dont l'art forcément immobile tentait pourtant de traduire le mouvement et la vitesse. Le bourdonnement maussade des abeilles à la recherche d'un chemin à travers les herbes hautes, leur vol monotone tout autour des urnes dorées et poudreuses d'un chevrefeuille solitaire, alourdissait un calme accablant. La rumeur confuse qui parvenait de la cité de Londres évoquait la musique lancinante d'un orgue lointain. Au centre de la pièce se dressait sur un chevalet le portrait en pied d'un jeune homme d'une extraordinaire beauté. En face, et à peu de distance de lui, était assis l'artiste lui-même, Basil Hallward, dont la disparition soudaine, il y a quelques années, a causé à l'époque une telle émotion et provoqué les plus étranges suppositions. Tandis que le peintre examinait la figure dont son art avait su si bien évoquer la grâce et la séduction, un sourire éclaira son visage et sembla vouloir s'y attarder. Mais il se redressa tout à coup, ferma les yeux et posa les doigts sur ses paupières comme pour emprisonner dans son esprit quelque rêve étrange dont il redoutait de s'éveiller. « C'est votre œuvre la plus belle. Vous n'avez jamais rien peint d'aussi beau, » dit Lord Henry en pesant ses mots. « Il faut que vous l'envoyiez au Grosvenor l'année prochaine. L'académie est trop grande et trop vulgaire. Chaque fois que j'y suis allé, il y avait tant de monde que je ne pouvais apercevoir aucun tableau, ce qui était pénible, ou bien tant de tableaux que je n'y pouvais rencontrer personne, ce qui est encore bien pis. Il n'y a vraiment que le Grosvenor. » « Je ne songe à l'envoyer nulle part, » répondit Basil tout en rejetant sa tête en arrière, selon un tic bizarre qui avait fait rire de lui si souvent ses amis à Oxford. « Non, non, je ne l'enverrai nulle part. » Lord Henry lui jeta un regard étonné à travers les minces volutes de fumée bleue qui montaient de sa cigarette opiacée et se déroulaient en d'étranges figures. « Vous ne l'enverrez nulle part ? Et pourquoi, mon cher ? Y a-t-il une raison ?» Les peintres sont vraiment des individus déconcertants. Vous faites tout au monde pour devenir célèbre. Aussitôt que vous l'êtes, on dirait que vous ne pouvez plus le supporter. Il n'y a qu'une chose au monde qui soit pire que de faire parler de soi, c'est que personne n'en parle. Un portrait comme celui-ci vous placerait bien au-dessus de tous les jeunes peintres d'Angleterre et rendrait jaloux les vieux, si leur âge leur permettait encore d'éprouver un sentiment quelconque. Je sais que vous allez rire de moi, répondit Basile, « mais je ne peux vraiment pas l'exposer. J'ai mis en lui trop de moi-même. » Lord Henry s'allongea sur le sofa en riant. « Je savais que vous ririez, mais c'est pourtant vrai. Vous y avez mis trop de vous-même. Ma parole, Basile, je ne savais pas que vous étiez si fat et je ne peux découvrir aucune ressemblance entre vous, avec votre visage énergique et rude, vos cheveux noirs comme du charbon, et ce jeune Adonis qui semble fait d'ivoire et de pétales de rose. Mais, mon cher Basile, c'est un narcisse, tandis que vous... Vous avez bien sûr une expression intelligente et tout ce que vous voudrez, mais la beauté, la vraie beauté finit où une expression intelligente commence. L'intelligence est en elle-même une sorte d'exagération et détruit l'harmonie d'un visage. Dès qu'on se met à penser, on devient tout nez, tout front ou quelque chose d'horrible. Regardez les hommes qui se distinguent par leur savoir. Comme ils sont laids. Excepté, bien entendu, les gens d'église. Mais c'est qu'ils ne pensent pas. Un évêque continue à répéter à 80 ans les mêmes choses qu'on lui a enseignées lorsqu'il était 4 fois plus jeune. Aussi garde-t-il une apparence absolument charmante. Votre mystérieux jeune ami, dont vous ne m'avez jamais dit le nom, mais dont le portrait me fascine, ne pense jamais. J'en suis absolument sûr. Il est une créature magnifique et sans cervelle, qu'il vous faudrait toujours garder ici. Elle nous serait infiniment précieuse à la fois en hiver, quand nous n'avons pas de fleurs à admirer, et en été, quand nous avons besoin de rafraîchir notre intelligence. Ne vous flattez pas, Basil. Vous ne lui ressemblez pas le moins du monde.
« Et vous ne comprenez pas, Harry !» répondit l'artiste. « Je ne lui ressemble pas, bien sûr, je le sais très bien. Vraiment, je serais désolé de lui ressembler. Vous haussez les épaules, mais je vous dis la vérité. Une fatalité pèse sur toute supériorité physique ou intellectuelle. La même fatalité qui semble, à travers l'histoire, s'attacher aux pas chancelants de nos rois. Il vaut mieux ne pas se distinguer de ses compagnons. » Les êtres laids ou stupides ont la meilleure part sur la terre. Ils peuvent s'asseoir à leur aise et bâiller au spectacle. S'ils ne savent rien de la victoire, ils ne connaîtront pas la défaite. Ils vivent comme nous devrions tous vivre, sans souci, sans inquiétude, indifférents à tout. Ils ne causent la ruine de personne et personne ne songe à leur nuire. Vous, pour votre rang et votre richesse, Harry, moi, pour mon intelligence et mon talent, quelle que soit leur valeur, et Dorian Gray, pour sa beauté, tous les trois nous aurons à souffrir terriblement en échange des dons que les dieux nous ont accordés.
Dorian Gray, c'est son nom ? Demanda Lord Henry en traversant l'atelier pour se rapprocher de Basil.
Oui, c'est son nom. Oh, je ne voulais pas vous le dire.
Pourquoi donc ?
Oh, je ne peux pas l'expliquer. Je ne dis jamais à personne le nom des gens que j'aime infiniment. Je croirais livrer une partie d'eux-mêmes. J'en suis venu à aimer le secret. Lui seul rend la vie moderne, merveilleuse ou mystérieuse. La chose la plus quelconque devient délicieuse pourvu seulement qu'on la cache. Quand je quitte la ville, je ne dis plus chez moi où je vais, sinon mon plaisir serait gâché. Je sais, c'est une habitude stupide, mais qui apporte une sorte d'élément romanesque à la vie. Cela doit vous paraître tout à fait ridicule.
« Pas du tout, » répondit Lord Henry. « Pas du tout, mon cher Basil. Vous semblez oublier que je suis marié. Le seul charme du mariage, ce sont les mensonges constants qu'il nous impose. Je ne sais jamais où est ma femme, et ma femme ne sait jamais ce que je fais. Lorsque nous nous rencontrons, oh, il nous arrive de nous rencontrer lorsque nous sommes invités au même dîner, ou que nous rendons visite au duc, nous nous racontons les histoires les plus invraisemblables avec le plus grand sérieux. Ma femme est très forte à ce jeu, beaucoup plus forte que moi. Elle ne se perd jamais dans les dates comme moi. Mais lorsqu'elle me prend en défaut, elle ne me querelle nullement. Parfois, je le souhaiterais. Elle se contente de rire de moi.
Je n'aime pas vous entendre parler ainsi de votre vie conjugale, Harry, dit Basil Hallward.
Il gagna la porte donnant sur le jardin. « Je suis convaincu que vous êtes en fait un excellent mari, mais vous avez honte de vos propres vertus. Vous êtes étonnant. Vous avez banni la morale de vos propos, mais elle règle tous vos actes. Votre cynisme n'est qu'une pose. »
« Le naturel aussi est une pose, et la plus agaçante de toutes !» s'écria Lord Henry en riant. Et les deux jeunes hommes sortirent ensemble dans le jardin pour se réfugier à l'ombre d'un vaste buisson de laurier sur un long siège de bambou. Les rayons du soleil glissaient sur les feuilles vernissées. Des marguerites blanches tremblaient parmi le gazon. Au bout d'un moment, Lord Henry tira sa montre. « J'ai peur de devoir partir, Basil, » murmura-t-il. « Mais auparavant, il faut que vous répondiez à une question que je vous ai posée tout à l'heure. »
« Quelle question ?» dit le peintre sans cesser de regarder par terre. « Vous le savez bien. »«
Non, Harry. Bien, je vais vous le dire. Il faut que vous m'expliquiez pourquoi vous n'exposerez pas le portrait de Dorian Gray. Il faut que je sache la vraie raison.
Mais je vous l'ai dite,
non. Vous avez dit que vous aviez mis trop de vous-même dans ce portrait. C'est de l'enfantillage. »«
Harry, » dit Basil Hallward en regardant fixement Lord Henry. « Tout portrait qui a une âme est un portrait de l'artiste et non du modèle. Le modèle n'est qu'un hasard, qu'un prétexte. Ce n'est pas lui que le peintre révèle. Le peintre se révèle lui-même dans la toile qu'il a peinte. Je ne veux pas exposer ce portrait parce que j'ai peur d'y avoir livré le secret de mon âme. »